Quand on pense aux grandes explorations spatiales d'aujourd'hui, on a tous en tête ces images de salles de contrôle hyper stériles, avec des calculs de trajectoires millimétrés. Tout est très clinique, quoi.
Ouais, tout à fait. Et bah en même temps, c'est logique, la moindre erreur est fatale. On cherche avant tout à éliminer l'imprévu grâce à des données bien tangibles.
C'est ça. Mais si on remonte le temps, genre sur les ponts en bois bien fétides des caravelles du XVIe siècle, cette rationalité, elle vole complètement en éclats. Face aux scorbuts et aux tempêtes, on traversait pas les océans juste pour ramener du poivre.
Ah ça, non. La boussole pointait aussi vers, disons, le salut de l'humanité. Provocateur même. Et je précise d'emblée qu'on n'est pas là pour valider cette vision politique, ni d'ailleurs pour faire le procès de l'auteur.
Absolument pas. L'idée, c'est juste de décortiquer son argument central, à savoir que cette fameuse découverte, bah, c'était d'abord une mission géopolitique et spirituelle, bien plus qu'une simple quête de lucre.
Et pour comprendre cette ferveur idéologique, le texte insiste pas mal sur la réalité technologique de l'époque, comme l'utilisation de l'astrolabe nautique ou le fameux bâton de Jacob.
Attends, c'était pas juste de bête boussole, si?
Ben non, pas du tout. Prends le bâton de Jacob. C'est un instrument en bois avec une tige coulissante. En gros, le navigateur devait viser en même temps l'horizon et un astre, le soleil ou l'étoile polaire par exemple, pour mesurer l'angle entre les deux.
D'accord, je vois le genre.
Et ce calcul mathématique, assez complexe d'ailleurs, ça permettait ensuite de déduire la latitude du navire.
Ah ouais? Et c'est là que je vois un décalage immense avec nos GPS. Aujourd'hui, on suit bêtement une flèche sur un écran, on est passif. Mais à l'époque, chercher sa route, ça impliquait de lire littéralement le ciel.
C'est exactement ça. Selon l'auteur, c'était pas qu'une prouesse technique, c'était perçu comme un alignement direct avec l'ordre du créateur. L'océan, c'était pas une autoroute commerciale, c'était le chaos originel.
Donc réussir à naviguer, c'était imposer un ordre divin sur le néant.
Voilà, c'était vraiment vécu comme l'arène ultime, une épreuve pour l'âme.
Ok, on affronte le chaos pour des raisons cosmiques, très bien. Mais qu'est-ce qui se passait une fois arrivé sur la terre ferme? Parce que le texte cite le journal de bord d'Alvaro Valio, qui accompagnait Vasco de Gama, et en arrivant en Inde, il dit « chercher, je cite, des chrétiens et des épices ».
Oui, c'est le fameux double mandat, l'or et la croix. L'auteur soutient que ces deux objectifs s'alimentaient mutuellement, sans contradiction.
Mais enfin, c'est là que ça devient fascinant et compliqué. Comment l'auteur réconcilie ça? Parce que d'un côté, il met en avant des figures comme Magellan, qui prône des conversions de libre volonté, sans violence. Et de l'autre, il glorifie la brutalité de ceux qu'il appelle les capitaines d'airain.
C'est vrai que c'est un grand écart.
Totalement. Comment on peut sérieusement associer un discours de paix avec des conquêtes aussi sanglantes?
Eh bien, le texte résout ce paradoxe par un concept fondamental de l'époque, la translation imperii.
La quoi?
La translation imperii. En clair, c'est la conviction profonde que la providence divine transfère la puissance politique d'un empire à un autre. C'est Dieu qui donne la légitimité, en gros.
Ah, donc une sorte de mandat d'expropriation céleste, en somme.
C'est une super image, ouais. Dans leur logique, si tu crois fermement être le bras armé d'un ordre universel, détruire un empire local, c'est pas vu comme une agression. C'est perçu comme un coup de glaive justifié, une étape dure mais nécessaire pour arracher ces peuples aux ténèbres.
Ouais, on justifie la brutalité temporelle par l'urgence spirituelle, quoi. Mais bon, organiser cette domination à l'échelle du globe, ça demande une architecture monumentale. Les flottes, les armes, les missions.
Et c'est là qu'intervient le Padre Ado. C'est le système politique qui a soutenu tout ça, légitimé par le traité de Tordesillas qui a, je rappelle, littéralement coupé le monde en deux entre l'Espagne et le Portugal.
Ah oui, la fameuse ligne de partage.
Exactement. Sous ce système, ces couronnes ibériques finançaient absolument tout, les expéditions et les missions, contre un pouvoir quasi épiscopal sur place.
Attends, en gros, les rois d'Espagne et du Portugal ont ouvert des franchises de la foi.
Des franchises.
Ah oui, Rome fournissait la marque, les rois payaient les frais de développement sur les nouveaux continents, mais en échange, ils gardaient le contrôle total sur l'administration locale.
L'analogie avec l'entreprise est très juste. Sauf que le problème, c'est que les franchisés sont devenus beaucoup trop puissants. Au début du XVIIe siècle, Rome a capté que ses filiales asiatiques ou américaines obéissaient plus au roi qu'au pape.
Ah, il panique au siège social.
Grave. Le siège a donc riposté. En 1622, la papauté crée la Propaganda Fide, un immense département bureaucratique. Le but mécanique, c'était de contourner les couronnes pour reprendre le contrôle direct de l'évangélisation.
C'est fou. Cette analyse, elle redessine vraiment l'image de cette première mondialisation. Loin de la simple course à l'enrichissement, on y voit une expansion hyper verticale, bureaucratique et surtout portée par un dogme sacrificiel.
Tout à fait. Et ça montre bien que pour pousser l'humanité à se jeter dans des environnements hostiles, face à la mort, l'appât du gain ne suffit pas. Il faut un moteur idéologique d'une puissance rare.
Ce qui pose une question hyper stimulante pour notre avenir. Si l'exploration du XVIIe siècle a nécessité un tel dogme spirituel, quelles croyances profondes devront nous animer pour accomplir nos prochaines prouesses ?
C'est vrai que c'est une perspective qui donne le vertige.
Complètement. Pour oser véritablement coloniser Mars, par exemple, quelle nouvelle religion devra nous pousser à quitter la Terre ? Parce qu'un algorithme peut calculer la trajectoire la plus sûre, c'est sûr, mais il ne donnera jamais à l'humanité une véritable raison d'y aller.